France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali, bonjour Alexandra et bonjour à tous. On a toujours comme un petit pincement au cœur lorsqu'arrive le tout dernier jour de l'année. On pense à tout ce qu'on s'était promis de faire et à ce qu'on n'a pas fait. Finalement, non, on n'a pas réussi à se mettre au sport, on n'a pas réussi à arrêter de fumer. On n'a pas profité assez de ses enfants, pas assez dit à sa compagne, à son compagnon qu'on l'aimait. Petit pincement au cœur, quand l'année se termine, cela dit, les 31 décembre, on ressent également une certaine impatience, l'impression d'un nouvel élan, enfin, on espère, une nouvelle énergie et des projets et des envies. Et puis, ce soir quand même, on réveillonne. Ambiance festive dans les journaux, où l'on nous donne ça et là quelques suggestions de menus à lire, notamment dans Ouest France, de la truite fumée de Bretagne, du foie gras de Normandie, des glaces fermières de Honfleur, avec des bulles de la Loire.
En revanche, si vous allez réveillonner à Londres, là, Frédéric, mieux vaut éviter la vodka.
Conseil à lire sur Slate. Les autorités britanniques sont sur le pied de guerre pour lutter contre certaines vodkas de contrebande, oui, qui se sont révélées extrêmement dangereuses. Problème de foie, problème de rein, certains consommateurs seraient même devenus aveugles. Attention également avec les huîtres. Vérifiez qu'elles sont bien closes et pour estimer leur fraîcheur, armez-vous d'un simple citron. C'est Aline Gérard qui donne la méthode dans Le Parisien. Une goutte de citron, si l'huître se rétracte, parfait, elle est vivante. En revanche, si ça n'est pas le cas, n'y touchez surtout pas. Et sachez que si par malchance vous tombez quand même malade, ce n'est pas du tout la faute de l'huître, non, mais c'est la faute de l'homme. Quand une huître vous intoxique, c'est parce qu'elle-même a été touchée par le virus de la gastro-entérite, virus humain qui s'est propagé dans l'eau de mer. Il y a parfois des infos qu'on préférait ne pas connaître.
Et d'autres infos auxquelles on a beaucoup de mal à croire.
C'est la polémique du jour. Toujours à lire dans Le Parisien. Et là, on se dit que 2018 aura vraiment été délirante jusqu'au bout. Il est ici question d'une femme décédée en août 1997, la célèbre Jeanne Calment, notre Jeanne Calment, morte à l'âge de 122 ans. Et pourquoi nous parle-t-on d'elle? Pourquoi donc y a-t-il polémique? Eh bien, car certains pensent qu'elle serait une usurpatrice. C'est du moins l'avis que défend dans une tribune un entrepreneur russe passionné de généalogie et spécialiste revendiqué du vieillissement. D'après lui, Jeanne Calment serait en réalité morte dans les années 30 et sa fille Yvonne aurait alors pris sa place afin d'éviter de payer une taxe sur l'héritage. Celle que l'on connaissait sous le nom de Jeanne serait donc sa fille Yvonne. Non. Et elle ne serait pas morte à 122 ans, non, mais à 99 ans. Elle n'aurait donc jamais été la doyenne de l'humanité sur les réseaux sociaux. L'affaire fait grand bruit depuis ce week-end. Jeanne Calment, une imposture. Mais non, ça ne tient pas debout. Réfute ce matin Jean-Marie Robin, le démographe qui a validé son record de longévité. Pour lui, Jeanne Calment était bien Jeanne Calment, c'est une certitude et les allégations du généalogiste russe ne sont qu'élucubration.
Cela étant, on est tellement abreuvé d'infos que ça n'est pas toujours simple, de démêler le vrai du faux.
Effectivement Jeanne, pas simple de distinguer entre un faux et un fox, autrement dit fake news dans la langue de Shakespeare. Et c'est précisément ce à quoi s'emploie Libération depuis un an et demi, à travers son service Shake News. Vérifiez encore et encore ce qui circule ça et là, et notamment sur Internet. Dossier de 4 pages ce matin, sur les grandes questions posées ces derniers mois par les lecteurs du journal, questions sur le compteur Linky qui serait dangereux, questions sur l'éducation sexuelle auxquelles se livreraient les enseignants dès la classe de maternelle, et puis d'autres questions plus farfelues. Pourquoi doit-on porter un bonnet de bain même dans les piscines naturistes? Vraie question. Pourquoi les gâteaux mous deviennent durs et les gâteaux durs deviennent mous? Vraie question, là encore. Est-ce que l'on peut aimer quelqu'un si fort que les draps s'en souviennent? Là, le journal ne répond pas. Ces derniers mois, foule de questions également sur le mouvement des gilets jaunes.
Des gilets jaunes qui ont d'ailleurs prévu de rester mobilisés pour le réveillon.
Des soirées au péage ou sur les ronds-points. Rond-point du Chat Noir à Marseille, rond-point des Prés d'Arène à Montpellier, le péage du Boulou à la frontière espagnole ou encore sur la rocade de Bordeaux, sur le pont d'Aquitaine avec feux d'artifice et feux de palette pour se réchauffer. Ils promettent un réveillon dans la bonne humeur. Bordeaux, où un jeune photographe a été agressé samedi dernier, c'est à lire dans l'éclair des Pyrénées, frappé à terre par un groupe de gilets jaunes jusqu'à ce que d'autres manifestants s'interposent. Travaillant notamment pour le journal Sud-Ouest, il a décidé de porter plainte. Dans la capitale girondine, ils étaient environ 2400 gilets jaunes samedi et plusieurs journalistes ont été violemment pris à partie. Insultes et intimidations, on a menacé une consoeur de la jeter dans la Garonne. Quant au photographe de Libé, lui, c'est par un tir de flashball venu des forces de l'ordre qu'il a été visé. C'est la première fois, confie-t-il, que j'ai ressenti que mon métier devenait dangereux pour moi et plus globalement pour les journalistes. J'ai l'impression qu'on est vraiment à un tournant. Une vraie défiance se dessine envers notre métier.
Défiance d'un côté, mais de l'autre, de vraies rencontres.
C'est l'angle choisi ce matin par le Maine Libre. Leur seconde famille chez les Gilets jaunes. Des hommes en galère, des femmes isolées socialement et qui, grâce à ce mouvement, ont redécouvert un sentiment de fraternité. Des hommes et des femmes qui sont toujours en galère, mais moins isolés socialement. Mouvement protéiforme, capable d'engendrer le pire et le meilleur. Soulèvement historique, aussi composite qu'inédit, relève Daniel Schneiderman dans Libération. Raison pour laquelle, écrit-il, l'appréhender en temps réel s'avère un défi impossible à relever. Réflexion sur le métier de journalisme. Comment parvenir à remiser ses a priori pour simplement voir ce que l'on voit et le dire, sans prétendre caractériser le mouvement tout entier? Comment nommer juste, ne pas sous-nommer, ne pas surnommer, progresser pas à pas, marcher sur des œufs et surtout, surtout, dit-il, se garder de la folle prétention d'avoir tout compris.
Et est-ce que le chef de l'État, lui, a tout compris?
Eh bien, nous le verrons ce soir. En tout cas, dixit le Figaro, ces derniers mois furent pour lui une succession de crises politiques d'une rare intensité, manifestations d'émissions ministérielles, sans oublier l'affaire Alexandre Benalla, lequel sur Mediapart confie qu'il a continué à échanger régulièrement avec Emmanuel Macron via la messagerie Telegram depuis son licenciement de l'Élysée. Il précise même avoir conservé la preuve de ces échanges sur son téléphone portable. Dès lors, que dira donc le chef de l'État lors de ses vœux aux Français? Il doit trouver les mots pour tenter de rassembler, note le Parisien. Il doit trouver les mots justes, abondent les Échos. Trouver les mots justes, on ne saurait dire mieux. Et après, seulement après, il pourra passer aux huîtres, aux bulles de la Loire, voire à la vodka.
Ah non,
pas la vodka.
Non.
On a retenu la leçon. Merci Frédéric Pommier.